J'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et un épisode qui, j'espère, va pouvoir aider certains étudiants qui veulent partir à l'étranger et qui sont en pleine candidature pour partir en échange à l'étranger ou qui songent à le faire. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon expérience lorsque j'ai préparé mon dossier pour partir donc en troisième année de licence en échange universitaire à l'étranger. Donc aux États-Unis, si vous avez écouté mes épisodes précédents. Alors pour ma part, j'ai commencé les démarches 2 ans à l'avance. Non pas qu'il faut se préparer autant de temps avant, moi c'était mon rêve et j'avais qu'une hâte, c'était vraiment passer toutes mes années pour être en troisième année et réaliser ce rêve. Il faut cependant se préparer relativement en avance pour vraiment mettre toutes ses chances de son côté. Enfin, c'est un conseil que je donne. Donc j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode déjà pour me rappeler à quel point j'étais vraiment chanceuse d'avoir pu étudier 1 an aux États-Unis, dans le pays de mes rêves, dans le cadre de ma licence, mais aussi pour aider, je l'espère, certaines personnes qui souhaitent, comme je vous disais, partir et qui savent pas trop comment s'y prendre, comment se préparer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses à préparer en amont, et selon les universités, ça peut changer en fait les procédures. On n'est pas forcément bien ou assez orienté selon les universités. On peut rapidement se perdre et se décourager en fait. Donc j'espère que cet épisode va pouvoir vous éclairer un petit peu plus là-dessus et peut-être vous rassurer si vous êtes en pleine démarche pour partir à l'étranger. Alors moi je me souviendrai toute ma vie de la date et de l'heure à laquelle j'ai reçu le mail qui allait littéralement changer ma vie et je pèse mes mots, hein, vraiment. Donc c'était le 3 février 2016 à 15h. Et franchement je dis pas ça à la légère, vous allez vite comprendre. Et je pense qu'il y a les personnes qui ont vécu ça également peuvent comprendre ce sentiment. Donc c'était le mail de l'organisme dans lequel j'ai postulé pour pouvoir réaliser ce rêve de gosse. Alors moi je suis partie avec MICEFA, donc c'est l'équivalent d'Erasmus pour l'Europe. Et là MICEFA c'est pour les universités nord-américaines, donc Canada, États-Unis. MICEFA c'est, je retrouve, c'est Mission Interuniversitaire de Coordination des Échanges Franco-Américains. Donc voilà, je suis partie avec eux et c'est ce mail-là que j'ai reçu de leur part. Et en fait, je me souviens, je venais de me réveiller de ma sieste. C'était l'après-midi, j'étais crevée. Je crois que je sais plus, j'avais bossé le matin parce que j'avais des examens le lendemain. Quelque chose comme ça. Donc je venais de me réveiller de ma sieste et là j'ai reçu ce mail-là. Et j'y croyais pas tellement sur le moment en fait. J'ai vu MICEFA. Mais bon, j'ai mergé quoi. Donc là, j'ai reçu ce mail et ce mail-là qui me disait écoutez, félicitations, vous avez été prise pour l'université de Floride du Sud qui vous attend pour août 2016. Et j'ai mis 30 ans à réaliser, je crois. Et en plus, j'ai eu ma fac coup de cœur. Alors, je dis coup de cœur, mais j'ai postulé pour 3 facs, donc 2 facs à New York, il me semble, et la 3e fac, c'était l'USF, donc Université de Floride du Sud. Et c'est vrai que je m'étais renseignée bien en avance et les cours qu'il y avait là-bas, ça me plaisait vraiment. L'ambiance, tout ça, même si j'avais un petit peu peur de la chaleur parce que moi, je suis pas du tout une nana qui aime la chaleur. Je déteste ça. Donc vous allez me demander, mais pourquoi t'as postulé là-bas? Donc, comme je vous disais, c'est pour les cours. Et puis, j'avais pas mal regardé le site de la fac. Et ça m'avait bien plu. Et c'est vraiment celle qui a le plus attiré mon attention et celle où je me suis le plus renseignée. Donc, pourquoi ce rêve de partir étudier aux États-Unis? Alors, tout simplement parce que j'ai été baignée dans la langue anglaise depuis mon plus jeune âge. J'ai une famille qui vit un peu aux quatre coins du monde. Donc, Canada, Angleterre, Hongrie, Allemagne aussi. Et la plupart du temps, je parlais qu'anglais ou allemand avec eux. Donc, ça a forcément développé mon attrait pour les langues. J'ai toujours adoré ça. Et puis ma mère, quand j'étais petite, elle me parlait un peu en hongrois, puisque comme je vous disais, j'ai une maman hongroise. Et ensuite parce que je pense que je suis une globe-trotteuse un peu dans l'âme. J'adore bouger, j'adore voyager. J'ai la bougeotte tout le temps, tout le temps. Mon chéri, il en peut plus. Je veux toujours partir. Là d'ailleurs, à l'heure où je vous enregistre cet épisode, je suis revenue de Lisbonne et j'ai déjà envie de repartir. J'ai vraiment ce goût du voyage depuis toujours et comme vous avez pu le comprendre, si vous avez écouté mes épisodes précédents, j'aime découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, j'aime bouger, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai dans le sang. Même si j'aime être chez moi, j'aime mon petit confort bien sûr, comme tout le monde, parce que j'ai un côté casanier aussi, mais voilà, j'ai ce côté aussi où il faut que je bouge, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je découvre plein de choses. Et pour moi, je trouve que ce monde, il a tellement à nous offrir et je sais que je suis pas destinée à faire du surplace. En fait, j'ai besoin de bouger, j'ai cette soif de découverte. Puis bah, les campus américains et le mode de vie à l'américaine, bah, pour moi, ça claquait. Et... Alors certes, forcément, on a tous vu les séries américaines, donc forcément, ça nous fait rêver, on a tous envie d'y aller et tout, mais bon, la réalité, c'est pas forcément la même. Même si, quand je suis arrivée là-bas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de similitudes avec certaines séries, surtout en Floride, donc voilà. Donc petit retour en arrière avant ce fameux mail. Comme je vous disais, j'avais passé le TOEFL, donc c'est l'examen qui permet... bah, c'est, en fait, c'est le passeport qui vous permet de partir. Donc, il y a un niveau minimal à atteindre. Ça dépend des universités. Je crois que pour l'USF, c'était... Alors, je vais vous dire USF, hein, c'est l'Université de Floride du Sud. Donc, là où j'ai été, je vais vous dire USF, ce sera plus court. Pour l'USF, c'était, je crois, 79 sur 180, quelque chose comme ça. Fallait avoir ça, minimum. Donc, alors, mon dossier de candidature, ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Donc, j'ai dû passer cet examen en août 2015. Donc en fait, un an avant de partir, littéralement. Je l'ai repassé trois fois pour pouvoir m'améliorer et mettre toutes les chances de mon côté. En fait, j'avais les points nécessaires pour être prise les trois fois, mais je voulais à chaque fois atteindre un maximum de points. Sauf que bon, avec la fatigue, et puis en plus, je crois que c'était très cher. Je crois que c'était minimum 200 euros, il me semble. Je crois que c'était 200 euros pour passer le TOEFL. Je vais regarder. Ouais, c'est bien ça, c'était environ 200 euros. Donc à chaque fois, je payais 200 euros. Et avec la fatigue qui s'accumulait, bah, j'ai jamais fait plus que la première fois. Donc la première fois était la bonne au final. Heureusement, j'ai pu prendre mon meilleur score. Et donc le TOEFL, c'est donc cet examen qui était dans mon cas obligatoire pour pouvoir passer en fait aux étapes suivantes. C'est vraiment le passeport pour pouvoir partir, comme je vous disais. Donc selon les universités, ils demandent vraiment un minimum. Donc ça dépend, hein. Peut-être dans d'autres universités le niveau est plus élevé ou moins élevé, mais en tout cas l'USF c'était 79. Donc le TOEFL il est composé de 4 parties, réparties en 4h30 d'examen à peu près, avec 10 minutes de pause. Donc moi ce que je vous conseille c'est buvez, mangez, faites pipi avant surtout, parce que avec le stress, avec la fatigue, avec tout ça regroupé, vous n'aurez pas le temps de faire tout ça. Dans ces 4 parties, alors la première c'est la partie compréhension écrite. Donc c'est plusieurs textes assez longs et des questions sur ces textes. En fait, on teste vos capacités à gérer votre temps de lecture et à comprendre en fait l'essentiel des textes en anglais sur des sujets académiques un peu divers. Alors mon conseil, ne faites pas la même erreur que moi à mon premier test. Ne lisez pas tout le texte. En fait, moi j'ai lu tout le texte et ça m'a pris un temps fou. Et du coup, pour répondre à toutes les questions, j'avais limite pas le temps de répondre à tout. En fait, les questions, elles sont ciblées sur des paragraphes spécifiques, donc ça sert à rien de lire tout le texte, car le temps passe trop vite et vous n'aurez pas le temps de tout lire pour répondre à toutes les questions. Donc vraiment, ne faites pas la même erreur que moi au début. Alors j'ai quand même eu une bonne note, mais j'ai pas pu répondre à tout et j'ai pas pu étayer mes propos et faire des phrases vraiment structurées, quoi. Donc j'aurais pu gagner des points là-dessus. Ensuite, vous avez la partie compréhension orale. Donc vous aurez votre casque et vous entendrez des conversations sur la vie de tous les jours, sur des sujets académiques et sur des cours en amphi, par exemple. Vous aurez à répondre à des questions en lien avec ce que vous aurez entendu. Donc mon conseil, c'est qu'il faut être très attentif. Il faut veiller à bien régler correctement le son de votre casque avant. Et il faut surtout pas se laisser perturber par les autres qui seront à côté de vous. Parce qu'il y aura des personnes qui auront peut-être déjà commencé leur partie expression orale. Et ils parleront dans leur micro. En fait, on y va à notre rythme pour ce test. Donc, ça va peut-être vous déranger d'entendre des personnes qui vont parler. Donc, vraiment, mettez-vous dans votre bulle et puis concentration au max. Après ces deux parties-là, il y a la petite pause de 10 minutes. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de souffler et vraiment de quitter la salle. Parce qu'il y en a qui restaient dans la salle assis. Mais dégourdissez-vous les jambes, soufflez, allez faire pipi, prenez une collation. Moi, j'avais pas du tout faim à cause du stress, mais je me suis vraiment forcée à manger un petit truc parce que sinon la concentration elle baisse et puis on évite les malaises aussi quoi. Ensuite pour la reprise, c'était la partie expression orale, je crois que c'est celle qui me faisait le plus flipper parce que j'ai peur à l'oral en fait, je suis stressée à l'oral alors que j'aime bien ça mais ça me stresse, ça m'a toujours stressée un peu. Il fallait vraiment que je gère ça, que je gère ce stress. Et il fallait aussi gérer son temps, mais aussi répondre correctement aux questions de la manière la plus structurée possible. Donc il y avait deux questions, je crois, et des compréhensions orales à commenter en fait, oralement. Mon conseil, si vous êtes des timides comme moi à l'oral et en impro, évitez les notes. Parce que de toute façon, je crois que vous aurez que 15 minutes de préparation. 15 minutes, n'importe quoi. 15 secondes de préparation. 15 secondes, c'est rien du tout. Donc vous avez la question et direct, 15 secondes, vous mettez dans la tête ce que vous allez dire. Et après, bam, direct, il faut parler dans le micro. Et vous allez être chronométré. Donc tout est dans la tête. Concentrez-vous sur la question posée et tâchez d'y répondre de la manière la plus simple possible. Essayez pas de faire des phrases trop longues. Essayez de vraiment faire ça avec vos mots, des mots simples, des mots que vous connaissez. C'est le plus important. Et si vous avez un très bon accent, profitez-en pour gagner des points. Ils apprécient bien. Je me souviens, j'ai misé sur mon accent et sur le vocabulaire que j'avais. Parce que grâce à ma licence, c'est vrai que j'avais pas mal de vocabulaire. Et ça m'a bien aidé, donc j'ai vraiment misé sur ça. Et après, une fois que vous êtes dedans, normalement, tout devrait rouler. Ça vient, en fait. Ça vient tout de suite. Une fois que vous commencez à parler, ça vient. Ça vient naturellement. Et ensuite, la dernière partie, c'est l'expression écrite. C'est celle où j'ai gagné plus de points, je crois. J'ai eu 26 sur 30, il me semble. Je viens d'un profil littéraire, donc j'ai été habituée aux dissertations en anglais. Et pour moi, c'était un jeu d'enfant. J'ai limite adoré ce que je faisais. Vous avez une question qui porte sur un texte académique et une compréhension orale sur le même sujet et une question libre. Donc en gros, trois petits tests. Donc mon conseil, c'est essayer d'apprendre le max de vocabulaire que vous comprenez et que vous pourrez facilement réutiliser au fil de l'eau. Par exemple, pour la première partie de la question, essayez d'être attentif et écoutez la compréhension orale, prenez des notes et notez les points importants du texte et combinez les deux dans votre disserte. Ça m'a bien aidé. Et pour la deuxième partie, vu que c'est une question libre, je me souviens plus du tout ce que c'était comme question, mais vraiment une question libre sur n'importe quel sujet, laissez place à votre imagination et à votre propre expérience. Et ça, j'ai adoré le faire. Donc j'ai été un peu déçue de mon score, parce que je suis une éternelle insatisfaite, hein. Sachant que je me disais que je pouvais faire mieux, mais bon, au bout de la troisième fois, je me suis dit c'est bon, stop, jamais 203, c'est fini, je le repasse plus. Dans les trois cas, j'avais le score minimum pour pouvoir partir, et puis financièrement c'était pas gérable quoi, 600 balles en un mois, c'était pas gérable, ça m'a crevé cet examen, c'est quand même 4h30. Puis je me disais, je jouais ma vie, quoi. Je jouais mon rêve, donc ça m'a encore plus fatiguée. Mais bon, j'étais quand même contente parce que j'ai pu passer aux étapes supérieures. Bon, alors la deuxième étape après avoir passé ce TOEFL, c'est la paperasse. Et puis, bah évidemment, j'ai choisi le pays où, niveau papier administratif, niveau paperasse, c'était conséquent. Les Américains, ils sont très exigeants, hein. Il faut être irréprochable, il faut avoir des bonnes notes, de bonnes appréciations, un bagage financier conséquent. Et puis, bah, un esprit de guerrier, quoi, hein. Il faut avoir de la patience. Sinon, c'est même pas la peine d'y penser. Du moins pour l'organisme dans lequel j'ai postulé. Mon dossier de candidature, il était assez lourd. Donc, il fallait que je fournisse les résultats du TOEFL. Donc, j'ai pris évidemment mes résultats les plus hauts. Une attestation financière de ma banque pour dire qu'on a les fonds nécessaires pour pouvoir, subvenir à nos besoins pendant un an, payer les frais de scolarité, enfin pas de scolarité, parce que justement, parce que vu que je suis partie en échange, j'avais pas à payer les frais de scolarité. Mais bon, les frais niveau loyer, niveau nourriture, les frais qu'on aurait à dépenser pendant le semestre ou l'année. Les notes de licence 1, et je crois les notes de licence 2, je sais plus. Je sais plus si c'était les deux, si c'était licence 1 et licence 2. Bah non, licence 1, juste licence 1 parce que j'ai fait ça très en avance. Donc juste les notes de licence 1, des lettres de recommandation, et j'en ai eu 4 à ma grande joie, et je les ai gardées en double tellement ça m'a touchée. Donc c'est des lettres de recommandation de mes profs, la plupart du temps. Traduction de mes notes, parce qu'il fallait évidemment traduire toutes mes notes. Il y avait des feuilles de candidature à remplir aussi. Un dossier rempli sur ordinateur, ça s'appelait Move Online je crois. Donc vraiment pour récapituler un peu ma candidature. Et une lettre de motivation en anglais. Et je crois qu'il y avait un CV en anglais, il me semble aussi. Donc ça c'est ce dont je me souviens. Et ensuite, bah, je suis allée déposer tout ce dossier au Bureau des Relations Internationales, au BRI, de ma fac. Et puis bah, j'ai attendu, en espérant de toutes mes forces et de tout mon cœur que j'allais être prise, mais pas trop non plus pour pas être déçue. J'espère que vous n'entendez pas le camion poubelle qui vient de passer. Donc voilà, je voulais pas trop espérer non plus parce que Moi, je suis quelqu'un de très pessimiste, en fait. J'ai pas envie de trop espérer pour pas être déçue à la fin et pour pas déprimer trop, quoi. Du coup, bah, j'étais entre les deux, là. Parce que c'était quand même mon rêve de gamine. Mais en même temps, je me suis dit, bon, dans ma tête, je me suis dit, bon, on verra si t'es prise ou pas. C'est pas grave si t'es pas prise. Enfin, si, je me dis, enfin, c'était grave pour moi si j'étais pas prise, mais j'essayais de me dire ça pour pas être trop triste à l'issue, quoi. Et ensuite, dernière étape de ce lourd dossier. Donc j'ai attendu, je crois, 2 mois à peu près avant d'avoir la réponse. J'ai été présélectionnée pour faire un entretien au siège de l'organisme, en fait. Donc c'était pas joué. Il n'y avait rien qui était joué. J'étais juste présélectionnée. Ça veut dire que mon dossier de candidature les intéressait. Mais il fallait que je donne tout pour cet entretien, en fait. J'étais déjà quand même trop heureuse, mais c'était pas gagné à 100%. Donc je me suis préparée à mort pour cet oral et pour vraiment tout déchirer. Donc évidemment, c'était un oral en anglais, hein. J'avais fait en janvier 2016, du coup. Je l'ai fait en janvier 2016. Et j'ai reçu la réponse comme quoi j'étais prise et que l'Université de Floride du Sud m'avait choisie pour être étudiante en échange le 5 février, comme je vous ai dit dans ma petite intro, donc la réponse de ma vie. Donc j'espère que mes petits conseils pour le TOEFL vont vous aider. Si jamais vous voulez le passer, si jamais vous avez ça comme projet en tête. Pour résumer, ce que je peux vous dire, c'est préparez-vous relativement en avance pour vraiment pas être surpris et submergé le jour du dépôt de la candidature. Ça vous évitera vraiment un stress supplémentaire. Pour préparer le TOEFL, il y a énormément de ressources en ligne ou en format papier selon ce que vous préférez, que ce soit des vidéos, des écoutes, des blogs, même des bouquins. Trouvez vraiment le format qui vous convient le plus. Et bûcher sur ce format, en fait. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien varier les deux formats. Du coup, j'ai acheté un gros bouquin pour me préparer aux exercices du TOEFL. Un bouquin d'exercices. Et je regardais des vidéos sur YouTube. Je lisais des blogs aussi pour me préparer. Donc vraiment, les ressources, trop importantes. Si vous avez un PC, créez un dossier dédié à cette candidature avec tous les documents importants. Tous les documents qui sont demandés pour que vous puissiez tout retrouver au même endroit, bah c'est vrai, moi je fais ça pour tout. Même encore aujourd'hui avec le boulot, ou même avec rien qu'avec le podcast, hein, j'ai toujours mon petit dossier podcast. Et je trouve ça super important. Au moins, vous savez que dès que vous cliquez sur ce dossier, il y a tout et vous n'avez plus qu'à imprimer ou à envoyer les documents nécessaires. Moi j'aime beaucoup les to-do list. Après, ça dépend de chacun. Mais c'est vrai que je fais beaucoup avec les to-do list. Notez les échéances aussi pour avoir une visu sur ce que vous devrez faire avant telle ou telle date. Ça aide à se préparer relativement en avance. Et puis quand vous perdez pied, parce que moi j'ai perdu pied beaucoup de fois, j'étais beaucoup démotivée parce que soit parce que les notes elles suivaient pas, soit parce que je me disais je suis pas assez forte, soit parce que je me disais mais c'est trop prestigieux pour moi, je vais jamais y arriver. Quand vous êtes démotivée comme ça, demandez-vous pourquoi vous faites tout ça, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait rêver. Pensez à tout ce que vous allez gagner en réalisant ce rêve et ça vous aidera à retrouver justement la motivation. Moi, c'est vrai que je me disais, bon, je suis pas motivée, enfin, je suis démotivée à cause de mon score, par exemple, du TOEFL, mais c'est mon rêve. Je rêve de faire ça. Donc, je vais me battre pour y arriver, je vais me battre pour réussir et pour avoir les notes nécessaires et je vais y arriver et ça va le faire et c'est là où. Bah, par exemple pour l'oral où j'ai tout déchiré et c'était vraiment plus une conversation avec la personne qui a fait l'oral. C'était vraiment une conversation en anglais et puis j'ai vraiment montré qui j'étais surtout. C'est important, restez vous-même aussi. J'ai vraiment montré qui j'étais et j'ai vraiment montré toute la motivation. Je pense qu'il a vu ça dans mes yeux. Il a vu que j'étais tellement motivée que voilà, ça lui a plu aussi quoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a peut-être donné envie de vous lancer si vous avez toujours des doutes, ou si vous avez peur, ou si vous êtes stressé, ou si vous vous dites comme moi au début, bah j'y arriverai jamais. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie vraiment de sauter le pas. Et j'espère qu'il vous a fourni des éléments intéressants et puis utiles pour vous aider à préparer une candidature à l'étranger et pour un changement de vie littéral, parce que oui, cette année à l'étranger a changé ma vie. Et je pèse mes mots. Ça a été la plus belle année de ma vie, je pense, mais aussi la plus dure aussi, sur beaucoup de plans. Mais j'en suis sortie plus que grandie et plus qu'épanouie. Voilà, ça je vous ferai, j'espère que ça vous intéressera. Je vous ferai un épisode dédié à cette année mythique. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a procuré le même effet que la première gorgée de café le matin. N'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast, mais aussi à me donner toutes vos suggestions pour les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux. Tous mes liens et toutes les ressources sont dans la barre d'infos. Merci de me soutenir et à très vite !